Edgar Allan Poe meurt en 1849, alors qu'en France, une forme d'engouement pour son œuvre a déjà commencé, grâce notamment à un certain nombre de traductions. L'Espagne va le découvrir dès 1858, non pas en langue anglaise, mais dans la traduction française de Charles Baudelaire. D'après Pedro Antonio de Alarcón, une dizaine ou une douzaine d'exemplaires des Histoires extraordinaires publiés donc 2 ans plus tôt en France circulent à Madrid cette année-là, hein, donc 1858, et passent entre plus de 200 mains, ce qui a pour effet de susciter des initiatives de traduction de Poe du français donc vers l'espagnol, hein, et pas directement de l'anglais. À Barcelone et à Madrid, pour les lecteurs espagnols non francophones, hein, qui ne peuvent pas le lire en français donc. Poe connaît un engouement en Espagne entre 1858 et 1868, et si les traductions se font à partir de 1860 depuis l'anglais cette fois-ci, c'est l'ordre et les titres proposés par Baudelaire qui font référence. L'œuvre de l'écrivain américain passe donc par la reconnaissance en France, puis en Espagne, pour atteindre le public de son continent dans son hémisphère sud, bien plus tardivement. Il faut en effet attendre 1884 pour que soient traduits et publiés sous forme de recueil quelques récits courts, et 1892 des poèmes. Rubén Darío, hein, qui est le poète nicaraguayen, considéré comme le grand écrivain professionnel, le premier écrivain latino-américain, qui est le représentant du modernisme, hein, publie Los Raros en 1893, un recueil d'essais qui se propose de faire connaître une vingtaine de figures marquantes du symbolisme dans l'Amérique hispanophone, et il place Edgar Allan Poe à la deuxième place, afin de montrer qu'elles sont toutes héritières de son œuvre. C'est donc, comme en Angleterre, plutôt le versant poétique de l'œuvre de Poe qui retient l'attention en Amérique latine de quelques fins lecteurs avertis, cosmopolites et voyageurs. Hein, et donc les écrivains modernistes, hein, qui sont souvent des poètes, vont être fortement influencés par l'œuvre de Poe. Mais c'est dans les récits narratifs que l'on retrouve ensuite la plus grande empreinte de Poe, comme nous allons le voir, à travers l'étude de quelques cas. Et cette influence est sans doute liée à la tradition naissante du récit court, le cuento, hein, qui se distingue de la nouvelle, notamment par sa concision. Donc l'influence de Poe dans l'œuvre narrative de Rubén Darío, et notamment de ses récits d'horreur, est déjà bien établie, hein, de sorte que nous n'y revenons pas aujourd'hui. Nous nous proposons de restreindre délibérément donc notre analyse aux récits de quelques écrivains hispano-américains, aux esthétiques variées, à la dimension du crime et de son éventuelle élucidation dans le texte, hein, donc les récits policiers, mais également les récits de crime plus généralement. Nous tenterons de voir comment ces écrivains du sous-continent utilisent le legs poesque pour le prolonger et le parodier, hein, c'est-à-dire comment Poe a transformé leur conception de la lecture, visible dans leurs écrits, selon l'idée que le lecteur est désormais un détective en quête de signification. Donc, je vais commencer avec Quiroga. Hein, donc l'écrivain uruguayen Horacio Quiroga, qui est né en 1878 et mort en 1937. Il est considéré comme le père fondateur du cuento en Amérique latine, le genre du récit court qui va connaître un très grand essor tout au long du XXe siècle. Il a souvent été comparé à Edgar Allan Poe, alors précisément parce qu'il a joué ce rôle de légitimation esthétique, hein, du récit court dans son ère géoculturelle, mais aussi par ses thématiques de prédilection. Hein. On retrouve comme chez Poe une prédilection pour la mort, l'étrangeté, la folie, les états altérés de la conscience, la terreur, le maléfice, la vie de outre-tombe, et puis également l'amour fatal, pervers, morbide, etc. Donc déjà les thématiques sont proches. Il est connu un petit peu comme l'Edgar Allan Poe d'Amérique latine pour son utilisation du fantastique et pour son goût pour le grotesque. Hein. Donc on voit diverses affinités qui se dessinent. Il faut dire que la destinée de l'écrivain, hein, Quiroga, n'est pas moins funeste que celle de Poe. Son père se tue alors qu'il n'a que 3 mois, son beau-père se suicide lorsqu'il a 17 ans, sa première femme se suicide, il tue accidentellement son meilleur ami Federico Ferrando en nettoyant le revolver qui devait servir à celui-ci pour se battre en duel, et atteint de cancer, il finira par se suicider. Hein, donc l'obsession pour la mort n'est pas une simple thématique, hein, c'est véritablement l'axe structurant de son œuvre. Donc ses récits les plus connus sont déjà bien analysés, hein, ce sont des chefs-d'œuvre du fantastique et du récit de terreur. Ils sont écrits avec une plus grande concision que chez Poe, mais ils s'inscrivent dans une veine poésque évidente, avec une adéquation parfaite entre la description du lieu et la situation des personnages. Donc je vais proposer ici des pistes de réécriture de crimes poésques, hein, dans des récits quiroguiens, moins analysés et peut-être un petit peu moins intéressants d'un point de vue esthétique. Il y a de meilleurs écrits, disons, mais voilà, là il y avait une niche qui a été assez peu exploitée dans la recherche, donc c'est ce que j'ai choisi ici. Alors je vais vous parler d'abord, je vais vous parler de trois récits de Quiroga, hein, d'abord les deux premiers. Donc il publie deux récits courts inspirés de la barrique d'Amontillado. Hein, donc le premier qui est très court, il fait à peine une page de 1901, qui est intitulé El tonel de Amontillado, hein, c'est-à-dire exactement le même titre que Pau en espagnol. Et puis le second est publié en 1904, il est plus long, il fait une dizaine de pages et il s'intitule El crimen del otro, hein, donc le crime de l'autre. Donc voilà, ces deux, on va déjà analyser ces deux récits parallèlement. Donc dans le premier, El tonel de Amontillado, il inverse en la parodiant la perspective du texte de Poe. Le narrateur s'identifie au personnage de Montresor, hein, et c'est son ami Fortunato qui veut lui raconter son histoire, sa drôle d'histoire, qui lui est arrivée dans une cave, dont il revient les épaules pleines de poussière. Hein, comme s'il était un revenant, hein, donc le revenant de l'histoire d'Edgar Poe. Tous deux boivent et Fortunato entraîne le personnage narrateur dans la cave, hein, peut-être, comme le suggère le texte, hein, mais on ne sait pas très bien, entre grotesque et épouvante, pour l'assassiner. Il y a donc un renversement par rapport à Poe, opéré à partir d'une isotopie du double, hein, c'est également le carnaval, et du double inversé, puisque la scène du récit se situe devant un miroir fixé au mur, comme les chaînes dans la cave. Mais ce qui est intéressant, c'est que le narrateur du texte de Quiroga semble confondre le narrateur de Poe avec Poe lui-même. Hein, c'est-à-dire qu'il assimile Poe à Montresor, dans le texte de Poe, confondant auteur et narrateur, hein, et ce n'est qu'à l'avant-dernière ligne que l'on comprend que le narrateur de Quiroga est Montresor, hein, ce qui tend à signifier que le narrateur de Quiroga s'identifie au narrateur personnage de Poe, c'est-à-dire à Poe lui-même dans sa confusion. Donc ce texte ne se comprend que si l'on connaît, le texte source de Poe, hein, sinon il est difficilement lisible, évidemment. Alors le jeune Quiroga de 23 ans, hein, dont c'est le cinquième récit publié, semble donc faire ses armes grâce à Poe dans un récit qu'il ne voudra pas republier par la suite. L'identification à Edgar Poe, qui ressemble à un lapsus de la part de Quiroga, renforce l'impression de désir de s'approprier Poe, hein, déjà très explicite à travers le titre et à travers la parodie. Hein, mais elle suppose aussi le désir de tuer ce père littéraire, puisque le personnage narrateur Montresor Poe, hein, se retrouve dans la position de Fortunato, hein, de Poe, dans une sorte de désir de vengeance inversé, hein, qui déjà chez Poe ne parvenait pas à sa conclusion, puisqu'on sait que Fortunato meurt sans comprendre que Montresor se vengeait en réalité. Alors, je passe au deuxième. Hein, trois ans plus tard, Quiroga publie El crimen del otro, hein, le crime de l'autre, dans lequel Edgar Poe est une référence explicite à l'intérieur de la fiction, au sujet de laquelle le narrateur avoue, hein, donc je traduis, « Poe était à cette époque le seul auteur que je lisais. Ce maudit fou était parvenu à me dominer complètement. Il n'y avait pas sur ma table un seul livre qui ne fût de lui. » Toute ma tête était emplie de peau, comme si on l'avait vidée dans le moule de Ligeia. Ligeia, quelle adoration j'avais pour ce récit. Fin de citation. Alors le personnage narrateur essaie de convaincre son ami, qui s'appelle opportunément Fortunato, hein, que son destin est celui décrit dans le texte de Poe. Il le décrit comme étant fou, ou peut-être idiot, hein, il le manipule pour l'enfoncer dans la folie en lui lisant des nouvelles d'Edgar Poe, hein, et ceci jusqu'à le faire descendre dans un trou situé dans une cave lors du carnaval. Donc le narrateur le dit explicitement, son propos est de faire avec Fortunato ce que Poe a fait avec Fortunato. Donc nous retrouvons ici le même désir de se substituer à Poe, mis en scène de façon grotesque et parodique. Hein, Poe domine le narrateur domine Fortunato. Et de nouveau, une sorte de lapsus surgit dans le texte, hein, confondant Poe avec le personnage de Montresor, hein, le double poesque de lui-même. Le crime de l'autre, hein, pour reprendre le titre, c'est le crime de Fortunato, bien entendu, mais aussi celui de Poe, hein, de l'écrivain. C'est bien sûr le crime de soi, car le narrateur est plus fou que son ami, sorte de William Wilson, qui finit par prendre conscience qu'il était peut-être un peu fou dans la dernière phrase du récit. C'est aussi le crime de soi, non plus en tant que personnage narrateur, mais en tant qu'instance narrative, hein, dans une sorte d'auto-parodie, hein, la parodie de El tonel de Amontillado, le premier récit dont je vous ai parlé. Donc la référence à Poe est ici explicite, hein, elle permet des mises en abîme qui parlent du processus créatif entre désir d'identification et grotesque mise à mort du père littéraire. Hein, donc on pourrait dire que la réécriture de Poe par Quiroga, hein, serait une sorte de mise en scène amusée du complexe d'Œdipe Poe. Par ailleurs, on sait bien que le temps diégétique ne suit pas l'orientation linéaire de la chronologie des publications, et il est permis de considérer que la diégèse du premier, donc El Tonel de Amontillado, de Quiroga, donc, suit en réalité celle de El Crimen del Otro. Là où le second se termine, commence le premier. Hein, on peut considérer que Fortunato descend dans un trou, dans une sorte de puits, dans le deuxième, hein, dont il ressort dans le premier récit, pour raconter son histoire à Montresor. Hein, il y a donc non seulement une parodie de Poe dans ces deux textes de Quiroga, hein, mais également un principe générateur d'un cycle, hein, ou plus exactement de fil, de motifs, de personnages, hein, qui par leur récurrence et leur continuité s'émancipent du référent poesque qui fonctionnait jusque-là comme hypotexte. L'assimilation forcée de Fortunato et du narrateur de El Crimen del Otro au personnage de Poe aboutirait ainsi, dans El Tonel de Amontillado, à une inversion diégétique sous la forme d'une parodie dont on ignore si elle se solde par un crime. Donc le complexe de Poe ayant été liquidé, Quiroga peut désormais s'affranchir de la référence onomastique explicite dans le reste de l'œuvre. Donc, je vais parler d'un autre récit maintenant. Donc si les premiers récits de Quiroga de la première décennie du XXe siècle, marqués par le modernisme, font directement allusion à l'influence de la lecture de Poe, ceux réunis à partir de 1917 dans Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte s'affranchissent de leur modèle, tout en gardant une grande affinité thématique. Alors, Horacio Quiroga a écrit Un Decálogo del Perfecto Cuentista, hein, donc dans son Décalogue du Parfait Conteur, il donne donc des commandements, hein, et le premier commandement incite à croire en un maître comme en Dieu, et bien sûr, Quiroga cite Poe en premier, hein, donc je traduis, crois en un maître, Poe, Maupassant, Kipling, Tchekhov, comme en Dieu lui-même. Dans le troisième commandement, il somme l'apprenti conteur de résister autant que possible à l'imitation, sauf si l'influence est trop forte, hein, admettant que la personnalité a besoin de patience pour se développer. On peut bien sûr penser qu'en 1925, Quiroga, fort de son expérience, est lucide quant à l'évolution de sa créativité et à l'émancipation de son œuvre, de celle du maître, hein, que dis-je, de son dieu. Et le cinquième commandement s'inscrit dans la droite lignée de la théorie de l'effet de Poe présente dans la philosophie de la composition. Hein, il dit « Ne commence pas à écrire sans savoir dès le premier mot où tu vas. Dans un récit bien écrit, les trois premières lignes comptent presque autant que les trois dernières. » Alors, prenons donc ce dernier récit, enfin un troisième récit court fantastique publié en 1914 pour illustrer cette appropriation un peu plus complexe de Poe par Quiroga. Hein. Donc, il s'agit de La Mancha Iptalmica, hein, qui a été traduit par La Tache Iptalmique. Hein, donc, il s'agit d'un néologisme. Donc la Mancha Iptalmica relate l'histoire, donc je vous raconte un petit peu l'histoire pour que vous puissiez comprendre, hein, c'est une histoire assez étrange, bizarre. Hein. Donc elle relate l'histoire du personnage narrateur, Federico, qui reçoit la visite de deux hommes chez lui, qui l'interrogent au sujet d'une tache sur un mur. L'échange confus entre les personnages engage le narrateur à parler de la tache dite iptalmique et du décès de sa femme l'avant-veille. Il reconstitue une scène antérieure avec sa femme qui, se réveillant, raconte son rêve, celui d'un drame dont le titre portait le nom de la tache iptalmique et qui comportait un foulard blanc noué sur une tête. Plus tard, l'épouse noue un foulard blanc sur sa tête et les deux jeunes mariés tombent dans une sorte de frénésie sexuelle. Un jour, Federico fait le mort, sa femme s'enfonce le foulard dans la bouche. Elle le surprend ensuite en train de plier soigneusement un foulard blanc et il lui réplique qu'il cherche à comprendre ce qui leur arrive. Ils retombent dans leur délire amoureux, elle est sur le lit, le visage gonflé et blanc. Un long moment se passe pendant lequel il reste allongé à côté de sa femme, hein, morte de toute évidence, mais le texte ne le dit pas. Puis on revient au récit cadre, l'un des deux hommes lui demande s'il a déjà fait un séjour en asile d'aliénés ou en prison, lui suggérant qu'il semble se destiner vers l'un ou l'autre. Hein. Donc les deux visiteurs sortent. Sur un divan, Federico pense qu'ils vont le dénoncer, il porte un foulard blanc sur la tête. Hein. Donc ça, c'est l'histoire, cette histoire qui est très étrange. Hein, et sa construction, enchâssée et légèrement ambiguë du point de vue de la délimitation des deux récits, hein, récit cadre et récit enchâssé. Cette ambiguïté donc nous invite à considérer le personnage à travers le prisme du dédoublement. La situation d'énonciation entre lui et les deux hommes et celle entre lui et sa femme se mélange, hein, dans une sorte de confusion qui rend difficile la lecture et l'élucidation du sens. Nous sommes, en tant que lecteurs, comme Federico, obligés de déplier ce carré blanc, hein, qui est la page du livre, dans notre cas, pour comprendre ce qui nous arrive. Une précision linguistique s'impose, car il y a un jeu de mots perceptible dans la proposition, hein, « Doblando con extremo cuidado y pliegue por pliegue un pañuelo blanco ». Hein, donc, lorsqu'il est en train de plier avec un extrême soin, hein, et pli par pli, un foulard blanc. Hein, le verbe « doblar », hein, signifie ici, bien entendu, « plier », mais « doblar », ça veut dire aussi « doubler », hein, et puis ça veut dire aussi « tourner la page hein, ». Donc, « el pliegue », bien entendu, c'est le pli, mais il faut penser aussi que le « el pliego », en espagnol, c'est aussi la page. Hein, donc ici, on a un ensemble de mots qui semblent suggérer hein, une continuité entre le foulard blanc et la page blanche. Et le foulard est blanc, hein, comme le mur parfaitement blanc, et comme le visage tuméfié de son épouse. Le lecteur essaie de comprendre ce texte obscur, hein, comme le drame du rêve de l'épouse, qui porte le même titre que notre récit, et qu'elle définit précisément comme une chose obscure et profonde. Hein, donc nous avons un foulard blanc, blanc comme la page, et une tache noire, noire comme l'encre. Les deux seules couleurs du récit sont le blanc et le noir, hein, ce qui peut être interprété aussi comme une réminiscence de la lecture de Poe, hein, ce passage au noir et blanc, comme l'a démontré Maryse Ducreux-Petit dans le livre Des Bords. Le noir sur blanc, c'est la tache ophtalmique sur le mur blanc, c'est aussi le texte sur la page blanche. Ce que l'on peut finir par comprendre, c'est que Federico est fou, hein, qu'il a tué sa femme auprès du cadavre de laquelle il a passé un temps important, sans doute en pleine décompensation, rendant son récit déstructuré. Sa coiffe et sa position sur, non plus le lit, mais sur le divan, fait bien sûr penser à une forme de folie à la fin du texte. Les deux personnages qui lui rendent visite sont sans doute des doubles de lui-même, hein, qu'il projette, comme on peut le comprendre à la seconde lecture. Le texte commence par une question au sujet du mur, posée par l'un des deux hommes sans qu'on comprenne qui parle, hein, puisqu'il n'y a pas d'incise et pas de verbe dicendi. Le narrateur intervient en disant qu'il lève son regard vers le mur, puis il dit qu'un autre, à son tour, lève les yeux sur le mur, et il a du mal à prononcer le mot, hein, pared, hein, il dit mur, comme s'il bégayait. Cet autre est un autre de lui-même, hein, autant qu'un autre personnage. Et bien sûr, nous sommes cet autre, hein, des lecteurs plus névrosés que psychotiques ou pervers, qui cherchons à structurer ce qui semble désarticulé et étrange. D'ailleurs, Federico leur demande de façon incongrue « C'était ma femme, vous comprenez ?» Ses interlocuteurs qui l'identifient à la raison, hein, c'est aussi bien sûr le narrateur implicite du récit auquel nous nous identifions, hein, mais que comprenons-nous de ce texte ? Federico s'invente sans doute deux doubles de lui-même, hein, eux-mêmes doubles l'un de l'autre, hein, ils évoluent ensemble, sans distinction nomastique, sans qu'on ne puisse les distinguer, et il leur attribue ses propres caractéristiques, hein, il dit qu'ils avaient des idées lentes et somnambuliques autant que l'on voudra. N'oublions pas qu'il se présente comme un homme de théâtre et il s'invente visiblement deux personnages associés à deux formes d'enfermement, l'asile de fous et la prison, lui qui se trouve précisément dans sa chambre entre quatre murs. Alors, les dédoublements de personnages en littérature ne sont pas une invention de Poe, hein, loin s'en faut, mais on peut tout de même penser aux nombreux personnages atteints de délire, comme Monsieur Bedlow, William Wilson, et puis tous les personnages assassins dans son œuvre. Il y a par ailleurs un détail assez incompréhensible dans le texte de Quiroga, si on ne le met pas en lien avec Poe, hein, il s'agit de la dent. La jeune femme n'a pas fini sa phrase au sujet du souvenir qui lui est venu lorsqu'elle a noué le foulard sur sa tête, que Federico lui pose la question « Une dent ?» À quoi elle répond « Je ne sais pas, je crois que c'est ça hein, ». Donc, il peut s'agir d'une comparaison, hein, le foulard formant une pointe blanche ou un souvenir présent dans le rêve. Quoi qu'il en soit, le lecteur ne comprend pas clairement à quoi ils font allusion. Hein, et il peut penser éventuellement aux dents de Bérénice, comme s'il s'agissait d'une prémonition ou pire, d'un avertissement fait à l'épouse. Et c'est un motif de la vampirisation, sans doute un clin d'œil à Poe, à son personnage Egeus, qui convoite les dents de la moribonde et se les approprie cruellement, comme Federico va s'approprier le foulard blanc et sans doute tuer sa femme. Hein. Et donc, comme il y a une dent dans ce récit, il y a également la mention d'un miaulement, hein, peut-être un clin d'œil au chat noir de Poe. Une autre caractéristique du texte de Quiroga, qui peut venir de Poe, est le rapport particulier de Federico à la vision. Maryse Ducreux-Petit a montré l'importance du regard, trompeur, sommeil de la raison chez Poe. Or, le texte, nous l'avons vu, s'ouvre sur la focalisation visuelle, sur la tâche, tantôt désignée et tantôt niée par Federico. Elle consiste en une absence de lumière, hein, le texte dit « le mur était assombri par le manque de lumière », comme le rêve qui est une chose obscure et profonde, comme nous l'avons déjà dit. Et cette tâche est dite Hyptalmique, hein, hyptalmica, néologisme qui provient du rêve de l'épouse. Donc ce mot se construit comme ophtalmique, hein, la mancha ophtalmica, hein, ce qui concerne ou guérit la vue. Cela peut faire penser aussi en espagnol à talamo, hein, le thalamus, la chambre nuptiale, ici. Hein, et puis le préfixe, hein, alors le préfixe hypte n'existe pas, donc on peut penser au préfixe hyp. Hein, donc ça peut venir éventuellement soit du grec hypnos, le sommeil, hein, comme pour hypnotique, hein, la mancha hypnotica, hein, peut-être, ou de hypo, en dessous. Enfin, sous. Il semble que Federico, dont tout tourne autour du lit de la chambre à coucher du jeune couple, d'un rêve étrange, d'un foulard blanc qui peut bander les yeux autant que bâillonner une femme, par exemple, soit frappé du sommeil de la raison, lui qui se situe précisément en dessous de cette tâche. Il est d'ailleurs très intéressant qu'avant de se souvenir du néologisme, la femme de Federico balbutie la tâche télé, ita, hyptalmique, hein, donc télé étant le préfixe signifiant à distance, et ita étant en espagnol un adjectif au féminin qui signifie au contraire uni, immédiate. Donc l'apparition de cette illusion qu'est la tâche hyptalmique, hein, tâche ophtalmique et tâche hypnotique, semble déclencher un moment de rupture chez le personnage, d'arrachement au réel, hein, en même temps qu'elle provoque une sorte de passion et de frénésie sexuelle entre fusion et sentiment d'abandon. Donc comme dans les contes conjugaux de Poe, il semble que la femme soit la victime de l'idéalisation d'un mari qui nous livre son unique point de vue. Et la tâche sur le mur, c'est aussi la projection de la culpabilité sur le carré blanc de la page. Hein, vous vous souvenez sans doute que j'ai évoqué dans l'introduction le fait que la Tsukiloga a tué accidentellement son meilleur ami, un certain Federico, hein, Ferrando. On peut voir ici un déplacement de la culpabilité sur ce personnage. Ce que la Tsukiloga ne peut pas savoir encore, en revanche, même s'il peut le pressentir, c'est que sa première femme, Anna Maria Siles, se suicidera moins d'un an plus tard. On comprend que si emprunt à l'œuvre de Poe il y a, et bien sûr ils existent et ils sont variés, hein, il n'en reste pas moins que la fiction de Quiroga utilise des ressorts propres à son univers par affinité avec une forme de destinée sombre et torturée. La tâche qui concerne le sommeil, hein, c'est-à-dire aussi l'irrationnel, l'inconscient, c'est sans doute celle de l'encre sur le papier, celle que les autres voient, dissèquent, inspectent, lisent, tentent de comprendre, tandis que Federico, qui a mal à la tête, hein, se couvre celle-ci d'un foulard blanc. L'objet de convoitise est le foulard pour Federico, autant que la page pour Quiroga. Hein, donc si l'on compare le processus de réécriture de Poe dans cette deuxième période créative de Quiroga par rapport à la première, qui se limite essentiellement à une inversion parodique, hein, on peut penser qu'il a trouvé des affinités avec l'œuvre de Poe, les a assimilées, puis s'est émancipé de l'ombre tutélaire de son maître, hein, la dimension parodique étant moins évidente dans cette deuxième partie. Alors, je quitte l'Uruguay, bien que Quiroga soit beaucoup resté en Argentine aussi, pour passer à Borges, hein, donc Jorge Luis Borges, que je ne présenterai pas puisqu'il est beaucoup plus connu. Hein, donc je passe plus rapidement sur la présentation. Hein, donc cet autre grand maître du récit court du Rio de la Plata, hein, qui admire les nouvelles d'Edgar Poe, mais alors beaucoup moins sa poésie, hein, dont il déclare que bien peu de choses ne lui survit. Borges est un grand lecteur de récits policiers, hein, et s'il parle volontiers de Wilkie Collins, de Chesterton ou Edgar Poe, en revanche, il n'évoque pas la traduction du roman noir qui naît et s'affirme à la même époque. Sans doute est-ce dû à l'importance qu'il attache au raisonnement intellectuel et à la participation active du lecteur. Mais à l'inverse de l'œuvre narrative de Poe et de Quiroga, hein, celle de Borges n'a pas le goût du macabre, aucune goutte de sang n'est décrite, hein, ni le moindre signe de torture psychologique. Et pourtant, son œuvre amuse autant qu'elle inquiète, mais d'une façon toute cérébrale. Je me limiterai ici à analyser le cas de La muerte y la brújula, hein, La mort et la boussole, de 1942, qui peut être considéré tout à la fois comme un récit parodique du policier, hein, selon Poe, mais aussi un récit qui ne fait que pousser cette tradition dans ses ultimes retranchements, ici géométriques. Alors pour rappel, hein, je rappelle un petit peu l'histoire quand même de La mort et la boussole, hein, c'est la suivante. Donc le détective Eric Lönnrot enquête sur une série de meurtres et suivant une double piste, hein, donc juive et géométrique, donc les trois meurtres ayant eu lieu le 3 décembre, le 3 janvier et le 3 février, en trois points, au nord, à l'est et à l'ouest, hein, formant un triangle équilatéral sur lesquels trois des quatre lettres du nom de Dieu ont été écrites, hein, il croit pouvoir anticiper, éviter le quatrième meurtre, en se rendant sur le quatrième sommet du Losange, au sud, avant le 3 mars, hein, avant de comprendre tardivement et poussivement qu'il est précisément la cible du quatrième meurtre. Donc son bourreau est Red Charlache, frère d'un homme que Lönnrot a fait mettre en prison. Donc, ce n'est plus le détective Dupin qui souhaite se venger du criminel, le ministre D, hein, mais le criminel, Charles H, du détective Lönnrot. Hein, on a déjà une première inversion. Red Charles H est le double rouge écarlate de Lönnrot, hein, puisque le Roth du patronyme Lönnrot fait écho en allemand, hein, au prénom Red et au nom Charles H, hein, de son bourreau. Et ce Red, dont le prénom signifie en espagnol Red la toile, hein, c'est-à-dire le réseau, le texte, hein, donc il l'attire dans ses filets, telle une araignée. Quant à Treviranus, hein, c'est le commissaire dédaigné par notre détective, esthète, lecteur de peau, qui représente l'ordre, hein, et une fois n'est pas coutume, il a l'intuition de la vérité, et ceci dès le début de l'histoire. Hein. Donc ici, on a tout à fait une inversion parodique du récit policier, évidemment. Donc dans ce récit, Lönnrot se pose en digne héritier de Dupin. Il est le héros de l'histoire, un détective brillant qui tente d'élucider un mystère en concurrence a priori favorable avec le commissaire de police Treviranus et dans un rapport de rivalité sans doute inconsciente avec l'auteur du crime. Il finit par être confronté avec le criminel démasqué suite à de fausses pistes. Hein, la ressemblance ici avec Double meurtre dans la rue Morgue va jusqu'à la réinvention d'une ville française fictive. Hein, le lieu est une transposition de la topographie francophone. Hein, on a la rue de Toulon, l'Hôtel du Nord et Triste-le-Roi, mais sur une cartographie de Buenos Aires, autant que la rue Morgue est une rue inventée dans un Paris fictif. Hein, donc on a cette ressemblance également avec le récit de peau. Mais Lönnrot est celui qui se jette dans la gueule du loup, détective et victime, au penchant inconsciemment suicidaire, car il n'a pas suivi la leçon de Dupin. Au lieu de n'être qu'un ratiocinateur pur, réfléchissant après coup dans un périmètre très limité, hein, la chambre, le cabinet du ministre D, le buisson du mystère de Marie-Roger, il a décidé de s'aventurer dans le réel, comme Dupin aime s'aventurer dans les bas-fonds parisiens. Et si l'on apprenait que Dupin était un poète et un mathématicien, Lönnrot, lui, est plutôt un lecteur de récits à énigmes, car ce qui le perd, précisément, c'est d'être un lecteur de policiers. Se prenant pour Dupin, il fonce tête baissée dans le piège tendu par un criminel plus brillant que lui et qui connaît son goût pour la géométrie et pour la littérature. D'une certaine façon, Lönnrot est confondu parce qu'il se prend pour Dupin, hein, qui est, ne l'oublions pas, un personnage de fiction ici au second degré, dans sa dimension la plus cérébrale, hein, celui qui réfléchit en termes de probabilité dans le mystère de Marie-Roger, mais aussi dans son envie d'aventure. Donc Lönnrot mélange les deux activités au lieu de les dissocier comme Dupin. Donc si l'on suit le raisonnement d'Henri Justin, selon qui, je le cite, hein, Dupin lui-même serait donc dans la profondeur des plis du texte le meurtrier autant que le détective, le grand singe autant que le super cerveau, hein, fin de citation, Borges ne ferait que pousser Lönnrot Dupin dans ses ultimes retranchements en le transformant en un détective suicidaire, lecteur de récits policiers, hein, c'est-à-dire un lecteur au carré, tandis que le commissaire Treviranus dénigre ces mêmes récits policiers et lui sauve sa peau. Mais le coup de génie de Borges, hein, c'est que le lecteur de La mort et la boussole, s'identifiant au narrateur du récit de détection, se dédouble comme Lönnrot Charles H en une victime bourreau, fonçant lui aussi tête baissée dans le labyrinthe tissé cette fois-ci par le narrateur impersonnel, victime du suspense et bourreau de lui-même, puisque toutes les informations étaient présentes dans les premières lignes. Hein, dans les premières lignes du récit, dans l'incipit, nous apprenons l'identité de l'assassin et l'identité de la victime. Hein, donc nous avions toutes ces informations en réalité dès les premières lignes du récit. Donc Borges inverse le principe de Poe, hein, connaître la fin dès le début sans le laisser paraître, et celui de Quiroga, selon lequel les trois premières lignes sont presque aussi importantes que les trois dernières. Ce sont les premières lignes qui sont les plus importantes chez Borges, qui donnent toutes les informations pour la résolution de l'énigme. Et pourtant, ce sont celles que l'on oublie, et le suspense finit par agir malgré tout. Borges, on le voit, hein, pousse le récit policier tel qu'il est inauguré par Poe dans ses derniers retranchements de la parodie. Hein, le double assassinat avec son meurtrier innocent et irresponsable sous les traits d'un pauvre animal effrayé de causer de l'effroi inaugure un genre qui est déjà en germe parodique. Hein, Borges en est autant le continuateur génial que le transgresseur brillant. D'ailleurs, il faut relire la dernière phrase de double assassinat dans la bouche ironique de Dupin au sujet de la réputation du préfet de police pour comprendre le double processus de réécriture de Borges. Hein, donc, Dupin dit « Je veux parler de sa manie de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas hein, », en se moquant du préfet. On peut appliquer sans aucune difficulté cette affirmation à Lönnrot en inversant ainsi les figures du détective et du représentant de la police. Il nie ce qui est, hein, il nie l'hypothèse du commissaire, hypothèse qui se révélera être la bonne, hein, d'après Charles H. lui-même, et il explique ce qui n'est pas, à savoir la fausse piste antisémite des crimes. La fin du récit borgésien est une véritable subversion du genre policier, avec l'inversion cette fois-ci des figures du criminel et du détective. L'assassin explique très consciencieusement comment il a conçu ses crimes, se fondant notamment sur une part considérable de hasard et de déguisement. Lönnrot lui oppose une explication géométrique du labyrinthe et Charlache fait feu sur lui. Le meurtrier et la victime sont les deux faces d'un même discours, hein, rivalisant d'ingéniosité philosophique. Red Charlache a prévu que Lönnrot obéirait à la logique des indices convergents, hein, soit exactement comme Dupin étend à l'investigation policière ce mode d'investigation scientifique, et que ce serait précisément ainsi qu'il l'attirerait dans ses rêves. C'est donc en prévoyant que le détective est un lecteur de récits à énigmes que le criminel a réussi son coup. Et le lecteur tombe dans le même piège que Lönnrot, avec Lönnrot, le détective auquel il a appris à s'identifier dans ses lectures policières. Ce que Borges éclaire magistralement à travers sa réécriture du cycle policier de Poe, c'est la charge parodique déjà contenue dans celui-ci, le genre du récit à énigmes naissant conjointement à sa propre transgression. Il faut dire que le détective est une figure analytique qui se rapproche du lecteur idéal, et comme le dit John Irwin, hein, donc je le cite, le récit de détection est une forme littéraire très sensible à ses propres éléments formels, à ses antécédents, à ses associations, à tel point qu'elle les thématise subtilement, les intégrant à l'énigmatique écheveau textuel qu'il revient au lecteur de débrouiller. Fin de citation. Donc la dimension métalittéraire présente chez Poe est décuplée chez Borges. La parodie qu'opère Borges n'a pas vocation à se moquer du genre établi par Poe, mais bien plutôt à jouer avec son propre lecteur qui est devenu, comme Lönnrot, un lecteur créé par Poe et par la tradition du policier. Si Poe établissait un mystère à l'intérieur même de l'investigation de la lettre volée, mystère concernant la parenté de Dupin et du ministre D, non compris par le narrateur personnel, mais dont le dévoilement est à portée du lecteur, comme l'a brillamment démontré Jean-Claude Milner dans Détection fictive. En revanche, Borges opère le processus inverse en dévoilant toute l'affaire dès le premier paragraphe. On connaît donc l'identité du criminel et de la dernière victime, et toute sa maestria consiste à nous faire oublier cette information capitale par la suite. Pour le lecteur de Borges, le déchiffrement de l'énigme est donc erroné et la vérité n'est que réminiscence de l'incipit. La lecture est un processus qui suppose une collaboration plus ou moins active de la part du récepteur. Le lecteur du récit policier tire plaisir de la fable racontée, mais aussi de la tentative d'élucidation du crime à partir d'une reconstitution des éléments mêlés de la trame narrative, hein, tant de la fable que de la trame. Ajoutons que dans le cas de Borges, les clins d'œil amusés à la tradition du récit à énigmes et la chute grotesque de Lönnrot ne sont pas étrangers à notre plaisir, plaisir analytique mêlé au plaisir de se laisser surprendre. Borges, à travers son ingénieuse parodie, rend donc un bel hommage au maître et à sa création, hein, celle d'un lecteur détective. Alors, donc, je quitte le Rio de la Plata, hein, pour vous proposer de remonter vers la Colombie maintenant, hein, donc un espace très différent avec l'œuvre du Colombien Andrés Caicedo, hein, un écrivain mythique et underground, hein, né en 1951, qui s'est suicidé le jour où, à 25 ans, il recevait la première version imprimée de son premier roman « Que viva la música ». Hein, donc c'est pour ça qu'il est aussi extrêmement, enfin il est connu, on va dire, il est un peu connu en Colombie, il est assez peu connu finalement dans la, c'est plutôt un écrivain un peu underground. Hein, Mais ce n'est pas de son roman sur l'univers psychédélique des drogues, des Rolling Stones et de la salsa dont nous allons parler, hein, bien que Edgar Poe y soit mentionné à diverses reprises, nous allons nous intéresser aux cuentos et à l'un d'entre eux en particulier. Donc les cuentos de Caicedo ont été publiés après sa mort, par ses amis. Une première fois donc sous le titre Destinitos Fatales, hein, donc ce titre reprenait l'un de ses récits, hein, le titre de l'un de ses récits qui lui-même reprend le titre espagnol Los Destinos Fatales, hein, Destinitos Fatales, Los Destinos Fatales, de l'adaptation de trois récits de Poe par le cinéaste de série B Roger Corman, hein, Tales of Terror, qui était donc traduit en espagnol par Los Destinos Fatales, dont il parle d'ailleurs dans certains récits. Puis des récits ont été publiés dans un autre recueil sous le titre qu'avait voulu Caicedo lui-même, hein, à savoir Cali Calabozo, hein, qui est un jeu de mots qui reprend le nom de la ville colombienne, Cali, où il est né et où il place ses fictions, et Calabozo qui en espagnol signifie cachot, hein, donc la Cali Calabozo, hein, Cali, la ville cachot, la prison. Donc l'influence de Poe que Caicedo a lue dans la traduction de Cortázar, hein, en espagnol, donc en de 1957, est facile à deviner car celui-ci est évoqué plusieurs fois dans les cuentos, hein, comme auteur admiré, parfois à travers l'adaptation cinématographique donc de Corman, comme je l'ai dit juste avant. On retrouve des figures et thématiques d'épouvante, comme le cannibalisme, hein, transformé ici en calibanisme, hein, qui file le jeu de mots avec la ville de Cali, hein, et s'inscrit également dans la tradition des réflexions entre le Nord, Caliban et le Sud. Donc il y a toujours ce jeu de mots entre cannibalisme et calibanisme, et cannibalisme qui est souvent associé aux vampires et notamment aux vampires féminins, qui reprend le motif du vagina dentata, hein, dans Los dientes de Caperucita, hein, donc les dents du petit chaperon, le petit chaperon rouge croquant le sexe du personnage narrateur à tel point bouleversé qu'il en perd lui-même sa langue, hein, la narration oscillant entre la première et la troisième personne dans une sorte de castration narrative. Caicedo, hein, faisait partie du groupe de Cali, un collectif d'artistes, écrivain et cinéaste, qui est resté connu pour son esthétique du gothique tropical, hein, le gothico tropical. Mais nous allons surtout nous intéresser à un récit intitulé Berenice, hein, Berenice, de 1969, dans lequel l'instance narrative changeante passe du jeu au nous et au il, hein, et le jeu lui-même passe d'un jeu à l'autre, hein, coïncidant tour à tour avec les personnages de Sébastien, Alfonso et Guillermo, hein, qui sont les trois amis, les trois jeunes gens. Donc cette instance narrative s'adresse à Bérénice, la prostituée narrateur, donc, qui est toujours évoquée verbalement par un futur ou un futur antérieur, temps verbaux particulièrement ironique, puisque le lecteur découvre à la fin du récit que les trois amis qui partageaient ensemble les draps de la belle l'ont tuée, découpée, fragmentée, démembrée. Le texte se construit sur un paradoxe, hein, la voix narrative ne cesse de s'adresser à la narrateur Bérénice pour lui signifier que les trois amis l'ont oubliée. C'est une forme ambivalente, hein, qui dit autant l'amour, le désir que le reproche et la rancœur. Il faut dire que Bérénice ne s'est jamais donnée, entre guillemets, à eux. Hein. Prostituée, elle faisait payer ses jeunes clients, même lorsqu'elle allait les chercher par la main jusque dans leur salle de classe. Elle leur mentait en s'inventant une enfant à nourrir. Elle semblait feindre un amour sincère en demandant à l'un d'eux une photo de lui, etc. Mais les trois jeunes gens, s'ils sont fascinés par le corps de la prostituée, ne le sont pas moins par son prénom, qu'ils estiment ne pas être un prénom de pute, hein, comme ils disent. Ils lui racontent l'histoire d'Edgar Poe en transformant systématiquement la boîte d'ébène en une boîte transparente, hein, comme si cette transparence était d'une certaine façon celle de la référence intertextuelle et donc celle de la fin du récit de Caicedo, c'est-à-dire son sort à elle également. Ce que les trois garçons ne semblent pas disposés à pardonner à Bérénice, c'est sa capacité à se jouer d'eux, financièrement d'abord. C'est d'abord par cupidité qu'ils vont la découper en morceaux, après avoir inventé la couleur de ses yeux, comme le clame Sébastien, ce conteur de Bérénice qui fait le récit de son visage à Alfonso, qui lui-même se munit d'un carnet de 100 pages pour l'annoter du prénom mythique de celle qu'ils affublent du métier de professeur de littérature devant leurs petites amies. Les trois garçons vont encore au lycée, ils semblent s'intéresser à la littérature, tandis qu'un employé de banque rend visite à Bérénice tous les mardis, venant de Caracas, hein, c'est-à-dire d'un pays voisin, pour passer une nuit entière avec elle. Or, cet homme, gros et gras, qui travaille dans une banque, qui lui a transmis une maladie. Hein, et l'association entre banque et maladie apparaît clairement dans le texte. Bérénice le leur dit, hein, pendant qu'ils lisent Bérénice, justement, de Poe à haute voix, et ils décident d'aller le tuer. On apprend que la petite amie de Guillermo, hein, est morte d'une maladie inconnue, la coxystolitis. Alors j'ai cherché, ça n'existe pas. Hein. On peut supposer qu'il s'agit d'une invention qui fait penser à une infection, hein, sans doute sexuellement transmissible. Donc les trois jeunes gens ont été reçus au bac, ont eu leurs photos dans le journal suite à la remise du diplôme et au discours du recteur, un curé qui a parlé de leurs vertus que l'on imagine hypocritement cardinales. On comprend que le meurtre, doublé d'un démembrement, n'est pas l'œuvre de psychotiques, monomaniaques opiomanes ou de fétichistes dentaires, mais plutôt celui d'une femelle, comme ils le disent dans le texte, par trois garçons représentant le futur de la patrie. L'argent de Bérénice, c'est son indépendance de femme, alors de prostituée, certes, hein, et c'est ce qu'ils ne supportent pas. La fin est cruelle, hein, ils ont arraché les dents de Bérénice, les dents qu'Alfonso léchait quand il l'embrassait, mais au lieu de garder les 32 petites choses blanches, ils n'en ont gardé que 7, toutes les autres étant pleines de caries. Hein, c'est-à-dire qu'ils les réduisent à de la matière, une matière gâtée, contrairement à la vision monomaniaque d'Egeus qui, vous voyez, des idées. Hein, il dit que toutes les dents étaient des idées. Hein. Ils ont également conservé la pointe de ses seins, ses yeux et ses cheveux. Sébastien lui propose de passer les voir, hein, alors qu'elle est morte et découpée, car il compte bien s'acheter un équipement complet de climatisation. Hein, donc on voit bien, entre la mention des dents pourries et le climatisateur, hein, qui était une chose rare en 1969 en Colombie, hein, tout le mépris social hein, qui s'ajoute à la cruauté criminelle de la fin du texte. Il s'agit donc d'une relecture de Poe qui se fait dans des circonstances particulières. Caicedo écrit ce texte dans un pays ravagé par la violence. Hein, pensons au Bogotazo, à la violencia, hein, la période de violence, aux conflits armés, aux guérillas, aux FARC, hein, évidemment, et en réaction à un discours phallocentrique hein, alors qu'il a à peine 18 ans. Il peut être rapproché de Los Dientes de Caperucita, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans lequel c'est le petit chaperon rouge, hein, le personnage féminin qui assume son désir sexuel face à des hommes qui ne pensent aux femmes qu'en termes de vierges ou prostituées. Et le petit chaperon vierge, donc, se transforme en vampire, prenant sa revanche sur ces hommes d'une morale à géométrie variable. Donc Bérénice, par rapport à ce personnage-là, hein, serait le double inversé du personnage du petit chaperon vierge, hein, puisque c'est la prostituée qui cherche son indépendance et finit victime des individus de sexe masculin dans un contexte dominé dans les années 60 par une culture hégémonique, celle des États-Unis, dont Poe fait désormais partie. Il y a donc une dimension idéologique au sens large hein, qui est ici exploitée dans la réécriture de Poe chez Caicedo. Et bien sûr, le virus de Bérénice hein, peut se transmettre aux autres femmes, comme à Martin. Hein, il faut la tuer et la démembrer, car elle apparaît comme une menace sociale en tant que femme indépendante financièrement et les entraînant de plus dans la polygamie. On est donc bien loin du récit de Poe, hein, dans lequel le protagoniste était clairement Egeus et qui parlait finalement assez peu hein, de Bérénice, personnage romantique à la santé délicate. L'instabilité de l'énonciation, qui ne se place jamais du côté de Bérénice, toujours réduite au rang d'objet et au mieux de narrateur in absentia, semble évoquer cette instabilité du masculin qui tremble et tente de faire nombre face à la menace féminine. Mais le caractère fantasmatique de Bérénice et Caicedo semble venir du texte de Poe, qui décrit le flottement des idées, la mémoire en termes aériens, et Bérénice au croisement des visions psychotiques de l'assassin. Effectivement, chez Caicedo, c'est son prénom qui fascine les trois jeunes hommes qui lisent Poe. Hein, ils se la racontent les uns aux autres en admettant que c'est, je cite le texte, la personne la moins imaginable du monde. Et qu'ils mentent à chaque fois qu'ils parlent d'elle, car ils ne peuvent se souvenir de rien. Il semblerait que l'inversion soit le moteur de la réécriture chez Caicedo. Hein. Si chez Poe, Egeus parlait surtout de son état à lui, plus que de Bérénice qu'il ne désirait pas, hein, comme pour se dédouaner ou au moins pour faire affleurer ses propres regrets, les assassins de Caicedo écrivent sur ce personnage fantasmé et d'abord aimé, hein, depuis un point de vue a priori sain, pour évoquer de façon ambiguë leur oubli et leur rancœur à son égard. Hein. Et cette inversion est intégrée à l'intérieur de la fiction, puisque c'est diégétiquement qu'il copie en toute conscience Egeus. Les trois garçons découvrent la sexualité en même temps que l'écriture. De ce point de vue, Bérénice leur enseigne les deux activités et ils acceptent la prostitution jusqu'à un certain point hein, dans une relation ambivalente qui fait penser à celle, ambivalente également, hein, de Caicedo pour Poe et pour la culture de l'Amérique anglophone. Alors, donc je vais essayer de conclure, hein, même s'il est délicat de conclure à partir de ce qui n'est pas un corpus de littérature comparée, ni même un échantillon d'histoire littéraire de la réception de Poe en Amérique latine. Plus modestement, il s'est agi d'analyser quelques récits de trois écrivains parcourant le XXe siècle hispano-américain aux esthétiques fort variées et évoluant dans des contextes géoculturels divers. On peut tout de même comparer la réécriture parodique de certains motifs, hein, le désir de vengeance, la présence du double, des crimes, le carnaval, et de plusieurs personnages emblématiques de Poe dans leur œuvre, entre celle de plus en plus affirmée et complexe de Quiroga, celle géniale et cérébrale de Borges, et celle précoce et critique de Caicedo. Dans les trois cas, l'œuvre de Poe est une référence de lecture, non pas seulement pour les auteurs, mais souvent pour les personnages eux-mêmes, lecteurs de l'auteur américain de Bérénice ou de la barrique d'Amontillado, auteur devenu culte à l'intérieur même de la fiction. Nous avons pu voir que chez Quiroga et chez Caicedo, on lit des histoires extraordinaires de Poe dans les récits eux-mêmes. La projection des auteurs dans leurs personnages, lecteurs de Poe, est telle que la réécriture se joue des frontières de la réalité de la fiction. Les personnages de Poe entrent dans la fiction des auteurs latino-américains, devenant des personnages de fiction au second degré. Hein, c'est le cas de Montresor et Fortunato dans Le crimen del otro de Quiroga. C'est le cas de Dupin chez Borges, de Bérénice chez Caicedo. Ou réintégrant le niveau de fiction à travers eux. Hein, c'est le cas de Fortunato dans El tonel de Amontillado. voire c'est Poe lui-même qui devient un personnage narrateur, par une sorte de lapsus de Quiroga qui confond narrateur et auteur dans une sorte de miroir dans lequel il s'admire en Poe à travers le personnage narrateur, narrateur hybride qu'est Montresor, autant trésor de Poe que trésor de Quiroga. S'il y a une tentative d'identification, drôle et ratée, au couple Montresor-Fortunato et une inversion de la perspective chez Quiroga, on peut penser que l'identification toute littéraire de Lönnrot à Dupin chez Borges, c'est précisément ce qui perd ce personnage de façon parodique, donc le détective borgésien, trop sûr de ses convictions esthétiques, au détriment de l'analyse du réel. Enfin, chez Caicedo, les trois jeunes gens, si opposés à Egeus qu'ils soient, projettent sur la prostituée Bérénice leur désir cupide et cruel au point de transformer son sort en celui de la Bérénice de Poe, mais de façon encore plus dégradée et cruelle. On peut donc percevoir une forme d'invasion de l'imaginaire poésque dans la réécriture de Poe du point de vue des personnages. Les personnages de Poe intègrent la fiction d'auteur du sous-continent, autant qu'ils finissent par transformer les personnages de ceux-ci sous l'influence de la lecture, et ceci de façon amusée. La réécriture parodique semble être une continuation de la lecture d'une œuvre peuplée de crimes et de détectives qui invite le lecteur à une forme de complicité et de détection. Toutefois, si l'on retrouve une forme de perméabilité des personnages liée à des crimes de l'œuvre de Poe, de façon constante mais sous des aspects variés dans le corpus que nous avons analysé, il faut observer un changement de perception idéologique avec Caicedo, qui lit autant Poe qu'il regarde des adaptations de son œuvre par Corman au cinéma. L'infréquentable Poe est devenu, au cours du XXe siècle, très fréquentable, et a pu être perçu tout à la fois comme auteur culte et comme porteur d'une culture, celle des États-Unis, ressentie parfois comme vampirisante en Amérique latine, notamment à partir de la révolution cubaine. L'ambiguïté présente dans toute parodie, qui oscille entre admiration et désacralisation, donc cette ambiguïté s'accentue chez Caicedo et se résout par une vampirisation de l'œuvre de Poe, une cannibalisation du caliban de la langue de Shakespeare, mais dans la ville colombienne de Cali, et ceci par la langue de Quiroga, Borges ou Caicedo. Donc pour conclure, Poe cannibalisé par le Sud, c'est la revanche de Bérénice, une Bérénice édentée, certes, mais polyglotte. Je vous remercie.